Bonjour à tous et bienvenue dans ce 130e épisode de Tech Café. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode enregistré le 14 mai 2019, c'est un mardi. Et ce soir, point de Guillaume Vendée, il est probablement parti aux Canaries vu le printemps exécrable qu'on a ici. Donc je suis accompagné de Pierre-Olivier Diebmann, voilà, notre reporter de l'extrême, notre Nicolas Hulot du podcast, qui nous revient tout droit de la Google I.O. Alors comment vas-tu Pierre-Olivier ?
Bien, mais j'ai pas un meilleur printemps que Guillaume Vendée, est-ce que moi aussi je peux partir en vacances ?
Ben oui, mais c'est vrai que vous avez eu de sacrées inondations, vous, là-bas aussi, hein.
Ça va, ouais.
C'est fini, ça va mieux ?
Non, en fait, enfin, pour prendre 10 secondes sur le sujet, la totalité des, ou quasiment la totalité des cours d'eau est équipée en hydroélectrique. Donc, quand les inondations arrivent, c'est parce que ça fait déjà 2 mois que Hydro-Québec est en train de balancer le surplus d'eau à droite, à gauche, et que ça court toute la province. Donc, l'inconvénient, c'est que ça redescend très, très lentement.
Ah oui, d'accord, effectivement, je vois, c'est vrai que c'est assez embêtant. Ouais, donc dérèglement climatique, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop de ça qu'on va parler ce soir, parce que nous avons quand même très largement profité de ta présence pour revenir un petit peu sur la conférence de Google, dont on avait parlé dans le dernier épisode, hein, enregistré juste après la keynote, en fait. Et depuis la conf, ben, c'est terminé, bien sûr, et tu vas pouvoir, en tant qu'agent infiltré, nous apporter ton éclairage à Pierre-Olivier sur l'événement, sur les annonces dont on a parlé la semaine dernière, et les petites nouveautés de cette semaine aussi. Hein. Donc voilà, ce sera vraiment une excellente occasion.
Tout à puisqu'on fait.
Y est... Ouais, bah écoute, super. Puisqu'on y est, on fera la même chose pour la build de Microsoft aussi, hein, puisqu'elle est terminée aussi depuis la dernière fois. Donc tu pourras donner tes impressions sur le côté Microsoft de ces conférences de printemps, hein, qui fleurissent cette année, voilà, tout en même temps. D'ailleurs, bientôt il y a l'E-Cube, puis après il y aura la WWDC, on n'en peut plus, quoi, des conférences, c'est plus possible. Bon, pour l'instant, on continuera notre actualité avec un petit peu de Facebook, hein, pour lesquels il y a eu bataille cette semaine par vidéo et articles de presse interposés sur une question classique. Maintenant, faut-il ou non démanteler le monstre ? On enchaînera avec une petite section espace, oui encore, hein, puisqu'il y a eu des révélations ambitieuses, voire cosmiques, hein, de Jeff Bezos, qui ne peuvent pas laisser indifférents. Et puis bon, bah, on conclura bien entendu, hein, comme à notre habitude, par quelques brèves et quelques petits bonus de derrière les fagots, comme on disait dans le temps. Parce que je suis pas sûr du tout que les ados de 2019 disent encore une expression comme derrière les fagots. Bon, écoute, en même temps, je pense qu'ils disent pas non plus sans autre forme de procès, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on va commencer cet épisode. Si tu es prêt, Pierre-Olivier.
Bien sûr, toujours prêt.
Parfait, sans autre forme de procès, donc la Google I.O. La semaine dernière, nous sommes donc revenus sur la keynote de Sundar Pichai, et globalement, on avait deux parties, hein, une partie hardware, avec les nouveaux Pixels et le Nest Hub Max, hein, je ne reviendrai pas en détail dessus, sinon pour signaler que les tests du Pixel 3a sont bons, que le téléphone est très recommandable, et que bon, bah, surtout, hein, il est doté d'un rapport qualité-prix jamais vu ailleurs, en particulier pour la photo. Et bon, iFixit, le site spécialisé, lui octroie une note de réparabilité de 6 sur 10, ce qui est honorable. Le Galaxy S10 avait 3, hein, pour mémoire. Le Mate 20 Pro a eu 4, et le Pixel 3, par contre, avait 4 aussi. Donc, en fait, c'est un progrès. Bon, un téléphone voilà, qui est plutôt bon, hein, malgré les rumeurs de Reddit, qui veulent que la fonction Digital Wellbeing, qui suit votre usage du téléphone, hein, ne le ralentisse significativement. Bon, c'est sûrement un bug, parce qu'on voit pas très très ouais, bien non plus comment...
Une erreur de jeunesse. J'ai même du mal avec le fait que ça fasse les manchettes. C'est clairement un problème d'architecture logicielle. C'est dommage que ça ait été jusqu'à la prod, hein, mais bon, c'est le genre de choses qui arrivent à toutes les bonnes et moins bonnes apps. C'est pas en soi une signature de quoi que ce soit. Enfin, voilà.
Non, je pense pas non plus. De toute façon, c'est un truc qui consomme pas de CPU particulièrement. Il y a peut-être une petite erreur. C'est pas bien grave. On avait parlé du Nest Hub aussi et de la mort de Nest en tant que tel, hein, puisque Nest est devenu une sous-marque de Google. Le Work with Nest, ben, elle ne fonctionnera plus sur Nest justement. Et bon, à peu près tous les items de domotique de Google sont devenus des Nest quelque chose, donc, mis à part Alexa, hein, dont le skill semble épargné pour le moment, les Work with Nest donc, ne fonctionnent plus. Donc tous les trucs de Philips, Waymo, Logitech, etc. ne marcheront plus. Bon, on s'attend aussi à ce que la séparation des comptes Nest et Google, d'ailleurs, ne disparaisse assez rapidement. Tu avais, toi, Pierre-Olivier, tu avais des remarques, des retours sur les annonces hardware comme ça de la Google I.O.
Moi, il y a des petites choses qui sont plus des questions, des questionnements que j'ai eu et auxquels j'ai pas eu spécialement de réponse à la Google I.O. D'abord, bon, c'est peut-être juste moi, ou en tout cas parmi les gens avec qui j'étais à Google I.O., c'était juste moi, mais je trouve la frontière entre Nest et Google encore plus brouillé maintenant qu'il y a des changements de nom sur certains hardware qu'avant. Alors je comprends bien que maintenant le hardware qui a son siège à la maison s'appelle Nest, mais dans ce cas-là, pourquoi le Google Chromecast? Enfin, pour moi, c'était très clair que dès qu'on faisait rouler du software de Google, ça s'appelait Google, d'où le hub, et que dès qu'on était vraiment beaucoup plus proche des murs, on était sur du Nest. Bref, voilà, bon, je suis un peu plus brouillé qu'avant, mais tout le monde a l'air de trouver ça clair, donc tant mieux. Et puis l'autre point, je ne sais plus, voilà, donc je te laisse la parole.
Je sais pas, un petit retour sur les pixels peut-être, ou c'était encore sur les sur le Google, sur le, disons,
oui, non, c'est ça, c'est mon deuxième point qui me chiffonnait un petit peu, c'est ces dates de sortie sur les hubs que décidément j'ai bien du mal à comprendre. Donc pour donner un petit peu plus de contexte à nos auditeurs, il y avait déjà un hub qui était sorti, il me semble, l'année dernière, et qui maintenant, oui, dont les ventes sont maintenant étendu à plus de pays, il me semble 9 au total, dont notamment ce qui nous concerne, le Canada et la France. Et puis il y a le nouveau hub, celui avec la caméra, avec le fameux interrupteur physique pour la caméra. Eh bien lui n'est en vente pour le moment qu'aux États-Unis, et c'est une situation que je ne comprends tout simplement pas, puisque s'il y a déjà des circuits de mise en vente pour le petit, je vois pas pourquoi il y en a pas pour le grand. En tout cas, il y a clairement pas de différence logicielle qui l'explique, puisque de temps en temps il y a l'excuse de la langue qui passe, mais ça ne marche pas, puisque de toute façon aux États-Unis on peut le configurer en français, et que maintenant que le petit est disponible au Canada et en France, il y a pas de doute. Donc voilà, c'est deux petites choses qui m'ont un petit peu chiffonné pendant la conférence, et j'ai pas spécialement de réponse à apporter, mais plutôt des questions.
Oui, effectivement, j'avais vu que ce nouveau Hub Nest, ouais, ce truc, c'était un petit peu la version un petit peu plus sophistiquée de l'ancien, quoi, hein, qui est sorti l'année dernière. C'était un truc, c'est une sorte de tablette de 10 pouces avec une résolution un peu pourrave d'ailleurs, qui fonctionnait un petit peu comme celle-ci, mais sans caméra, tu as raison. Donc moi, je sais pas, moi je supposais qu'elle allait remplacer un petit peu cette version-là. Bon, on verra effectivement si c'est le cas ou pas. En tous les cas, tu fais bien de parler de cette vieille machine de l'an dernier, hein, puisque ce Google Home Hub, donc il y avait une référence logicielle qui s'appelle Estelle, je crois, et c'est marrant parce que ça nous amène à notre sujet suivant, parce que cette semaine, Google a parlé un tout petit peu de Fuchsia, donc cette arlésienne du système d'exploitation qui se développe en secret depuis des années. Donc c'est un OS qui a été codé de zéro, c'est pas un Linux lourdement customisé comme le sont Chrome OS ou Android. Donc il est doté d'un noyau maison, il a un petit nom maintenant, ce noyau s'appelle Zircon. Avec Fuchsia, les ingénieurs de Google veulent expérimenter et apprendre des trucs, hein, pour créer un OS polyvalent, dont la commercialisation a été encore quand même plusieurs années dans le futur, on va dire entre 3 et 5 ans. Hein. Alors, il y a quand même des petites rumeurs, puisqu'il y a le site 9to5 Google qui dit qu'il y a des références au Google Home Hub, justement, donc ce fameux Estelle, dans le code de Fuchsia. Et donc, c'est loin d'être certain, mais voilà, pour eux, il est possible que Fuchsia soit directement exécuté, ou alors ait été exécuté sur le Google Home Hub. Bon, cela dit, Fuchsia est tenté sur des pixels, on le sait, hein, Hiroshi Lokanheimer, le responsable d'Android et Chrome OS, a enfoncé le clou en insistant sur le fait que qu'il n'était pas seulement question d'ordinateur ou de téléphone, hein, pour Fuchsia, mais aussi de l'Internet des objets, et en gros de plus ou moins tout ce qui peut avoir un microprocesseur dans le futur, ce qui fait pas mal de trucs, hein, si on en croit la tendance. Toi, est-ce que tu peux nous révéler des secrets sur Fuchsia, toi, ou est-ce que...
Alors, absolument pas. Maintenant, je vais me ranger derrière l'hypothèse qu'a formulée Édouard Marquez, qui est un des plus anciens rédacteurs de Frandroid et qui a couvert cette année encore la Google I.O. Pour le compte de Frandroid, et qui pense qu'il y a une forte chance pour que les hubs actuels de Nest / Google / Google Assistant / de toute façon ils seront renommés l'année prochaine, fonctionnent sous Fuchsia. Son argument est plus une piste hein, qu'une preuve, c'est que le peu de choses qui sont ouvertes aux développeurs tiers sont à développer en Flutter. Et Flutter, on le sait, c'est cette stack qui permet d'adresser différentes plateformes qui se développent en Dart et qui est surtout le seul... la seule façon aujourd'hui connue de faire des applications sur Fuchsia. Et comme la seule façon connue donc de faire des applications pour le Nest Hub, c'est Flutter, on a quelque chose qui est ISO des deux côtés, et ça se pourrait donc que ce soit l'OS. Évidemment, l'argument tout seul ne tient pas, hein, ça peut être une coïncidence, et puis Flutter fonctionne sur le web, sur iOS, sur Android, donc et sur desktop, donc ça ne suffit pas, mais il faut aussi énumérer un petit peu les OS que Google maîtrise. Ils ont des OS Cloud, donc évidemment on ne va pas les mettre sur un genre de tablette fixe. Ils ont évidemment Android, il ne s'agit clairement pas, ou en tout cas visuellement pas d'un Android. Ils ont aussi Chrome OS, là aussi ça paraît difficile, et puis après le reste on est sur des tout petits Linux embarqués avec peu ou pas d'interface, je pense notamment au routeur et au Chromecast. Donc c'est vrai que la question de quel est cet OS qui alimente le Nest Hub, eh bien Fuchsia c'est quand même très tentant d'y voir une réponse.
Écoute, ça rejoint un petit peu donc cette rumeur hein, qui est issue de 9to5 Google, où effectivement ils pensaient que c'était le Google Home de l'an dernier qui allait tourner sur Fuchsia ou qui tournait sur Fuchsia. Écoute, le fait que voilà Fuchsia soit, disons, fasse ses débuts sur des trucs de domotique et des appareils intelligents de l'internet des objets, ça rejoint complètement ce qui a été dit. Donc on va partir là-dessus. C'est une hypothèse qui me plaît bien. On peut finir ce récapitulatif I.O. avec Android, évidemment Android 10 ou Q ou whatever, hein, on va l'appeler 10. Une version qui, je crois, de la 5G en particulier, hein, Google a travaillé avec Qualcomm sur une fonction permettant à une app d'obtenir une quantification de la qualité de la connexion en 4G et 5G afin de pouvoir, le cas échéant, adapter les fonctions de l'appli. Alors évidemment, pour le plus simple, on peut penser à du streaming vidéo hein, qui s'adapte, mais ça peut aussi aller plus loin, comme du jeu en ligne, du MMORPG, hein, mais aussi du stream réalité augmentée ou virtuelle, de la téléprésence, des groupes de rock délocalisés, oui, ça a été évoqué. Voilà, la 5G n'existe presque pas encore, mais on cherche déjà sa killer app. Hein, la 4G, on s'en souvient, a permis l'émergence d'Instagram, de Snapchat et consorts. Hein. Donc qui sait ce que l'avenir nous réserve à la Google I.O. Il y avait un workshop là-dessus, avec plus de 100 développeurs d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as une killer app en tête, toi, pour la 5G. Enfin, remarque, je suppose que si tu en avais une, tu la coderais toi-même et tu te garderais bien de la divulguer publiquement, je suppose.
Oh, je ne fais pas partie des gens qui pensent que les idées ont une valeur intrinsèque, donc ça ne me dérangerait pas d'en parler, ne serait-ce que pour avoir les réactions de nos auditeurs. Il ne me semble pas avoir vu une centaine de personnes au workshop sur la 5G, mais je n'ai fait qu'y passer. Je pense il y a plein d'usages qui vont être débloqués, mais à mes yeux, ils ne seront probablement pas particulièrement mobiles. Je vois de plus en plus de gens qui ne prennent plus Internet à la maison, et je pense qu'on va plus là-dessus, et que clairement, ça va changer des usages, mais ce n'est pas tellement sur les téléphones intelligents que ça va évoluer, mais plutôt sur beaucoup d'autres devices qu'on a à la maison et qui sont peu ou pas connectés et qui, même s'ils sont connectés, n'ont pas forcément autant d'usage aujourd'hui qu'ils ne l'auront demain.
Oui, ça, sans doute, effectivement, il y a tout un écosystème comme ça en devenir. Et effectivement, en software et sous Android, il y avait aussi l'assistant. On avait discuté de ses progrès la dernière fois. Depuis, il y a eu une autre démo. Alors, elle est plus courte que celle de Cortana, qui durait 3 minutes hein, de dialogue, hein, qui avait été montrée à la build. Bon, on y reviendra. Mais on a la même idée. C'est-à-dire, pendant une petite minute, la présentatrice parle de manière relativement fluide hein, à son téléphone, sans dire OK Google à chaque fois. Et elle demande des choses qui demandent une certaine contextualisation. Tu vois, elle répond. Hein. En l'occurrence, elle répond à un ami à propos de vacances à Yellowstone, ou à Yosemite. Je sais plus, enfin bon, on s'en fout. Et bon, l'assistant, par exemple, peut accéder à Google Photos, récupérer une photo de bison et l'envoyer sans aucune interférence extérieure. Donc tout ça, ça se fait de manière très réactive, probablement parce que désormais, l'assistant peut se faire en local. Donc encore une fois, c'est l'assistant qui est ultra optimisé, offline, qui est aussi plus malin. Donc voilà, c'est toi, comment tu trouves ces progrès vers le rêve hein, du secrétaire particulier dans ton téléphone pour tout le monde, puisque c'est vraiment vers ça qu'on tend, j'ai l'impression.
Je peux témoigner qu'il y a des mâchoires qui sont tombées par terre pendant cette démo. C'est très très impressionnant et surtout quand on compare à l'état de l'art au niveau des autres entreprises, avec Alexa qui a du mal à comprendre c'est quoi son nom, Siri qui a du mal à trouver des trucs qu'il sait faire, et Cortana qui a du mal à ce qu'on parle d'elle. C'était vraiment extrêmement impressionnant. Le premier truc, moi, qui vient me chercher, c'est l'approche business. On parle énormément, 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 énormément de vie privée. Et puis là, tout d'un coup, il y a Google qui dit non, mais vous savez, tous les trucs Google Assistant, nous, ça roule en offline. Ok. Là, on parle. Il y a pas beaucoup de critiques qui pourront être adressées sur le sujet de ah, j'ai parlé de papier toilette et j'ai eu des pubs pour du papier toilette. Enfin, ce sujet est totalement évacué. Et puis, effectivement, les capacités de compréhension telles que présentées dans la démonstration, parce que bien entendu, la démonstration est extrêmement scénarisée, sont vraiment bluffantes. Mais exactement comme on l'a dit l'an dernier, il est peu probable que Google présente des choses qu'il n'arrive pas à totalement à faire et a priori ce sont vraiment des choses qui vont sortir et qui seront possibles très 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 vite. Ouais, c'est très impressionnant.
Oui, je te rejoins cette impression-là. C'est que moi, j'ai été vraiment, je suis toujours d'ailleurs, hein, sur le cul que tout ça fonce que dans le local. Je suis assez, c'est vraiment une percée, je trouve, que un logiciel aussi intelligent que le Google, l'assistant de Google actuel, puisse être compressé en 500 mégas, une appli de 500 mégas dans ton téléphone, quoi. C'est-à-dire qu'il passe sur tous les téléphones. C'est absolument incroyable. Hein. Encore une fois, on peut le répéter, c'est une véritable avancée, quoi.
Et ça va plus loin donc que Google Assistant, puisque au même chapitre, on a eu la présentation de Live Caption. Donc en gros, n'importe quoi, n'importe quel son que ton téléphone joue, tu peux activer une fonction d'accessibilité qui va tout simplement écrire sous la forme d'un toast. Alors les toasts, c'est ces petits affichages blancs sur fond semi-transparent noir en bas de l'écran. Donc dans des toasts, toutes les paroles qui sont dites dans une vidéo ou n'importe quel type de contenu. Donc c'est pas juste du YouTube ou n'importe quelle app maîtrisée par Google. C'est vraiment n'importe quoi qui roule sur le téléphone. Donc ça peut être même des players web ou des choses comme ça. Et Live Caption, c'est extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, qui sont malentendantes ou ce genre de choses. Mais c'est aussi extrêmement important pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer. C'est-à-dire que là, elles pourront s'exprimer et le téléphone va retranscrire par écrit. Et on a eu des démos de compréhension de la parole avec des gens qui ont vraiment des problèmes et que sans sous-titres, il est extrêmement difficile de les comprendre. Bref, la reconnaissance vocale de Google, elle marche et elle marche pas juste pour les gens qui n'ont aucune difficulté à parler, et ça aussi c'est très impressionnant, et ça aussi ça se fait en offline. Et au même chapitre, mais alors ça c'est un peu plus marketing parce que la techno elle existait déjà, mais il y a une espèce de rebranding de la traduction pour là aussi rappeler que bah, voilà, elle fonctionne en hors ligne, elle fonctionne avec la dictée, elle fonctionne aussi avec l'appareil photo, avec la caméra. Tout ça mis bout à bout, Google Assistant, Live Caption et la stack de Translate qui maintenant est intégrée dans une OTAP dont j'ai oublié le nom. À destination des marchés émergents, eh bien, ça donne vraiment cette sensation de pouvoir pour des gens qui jusque-là étaient totalement délaissés de l'informatisation du monde.
Oui, c'est vrai. Tu mentionnes le projet Euphonia. Tu avais touché deux mots la dernière fois. Effectivement, il y a vraiment cette impression que, au niveau recherche sur les algorithmes d'intelligence artificielle, il y a quand même une avance de Google qui est assez manifeste et qui, bon, voilà, jusqu'à présent, n'a pas été contredite par ce qu'on a vu, disons, des autres acteurs. Même si, quand même, Cortana, bon, apparemment, fait des progrès, donc ça me permet de faire la transition vers notre deuxième section, qui est la section qui est le retour finalement un petit peu sur la build 2019 qui s'est donc terminée de Microsoft. avec, bon, ben voilà, on parle d'assistant, il y a donc cette vidéo à la build qui était très prometteuse, alors évidemment peut-être trop prometteuse, c'est difficile de le savoir à l'avance. En tout cas, Microsoft ne lâche pas Cortana, puisqu'elle sera plus intelligente, elle sera intégrée aux outils Microsoft et finalement plus optimisée en direction des professionnels, parce que le but c'est de permettre à Cortana de vous aider dans toute la galaxie Office 365, pardon. C'est Cortana, ça me rappelle la Xbox 360, c'est pour ça.
C'est vrai, mais d'un côté c'est le tour complet du globe et de l'autre côté c'est le nombre de jours pendant le tour complet.
Effectivement, tout à fait. Bon, en tout cas, ils travaillent fort hein, pour rendre intelligents les calendriers, les listes à faire, les documents, pour positionner Cortana dans l'entreprise. C'est la priorité même, hein, ça ne signifie pas que Cortana va complètement quitter le secteur grand public, hein, comme le dit Andrew Schumann, qui est le patron de la division Cortana. Il reconnaît qu'il y a aussi une énorme marge de progression dans la compréhension, la réactivité, et pourquoi pas aussi l'usage d'autres signaux que la voix, par exemple la caméra pourrait être utilisée pour suivre le regard, regarder quelle tête vous faites, les gestes que vous faites, etc. Bon, pour l'instant, les ingénieurs, eux, tentent de désenclaver les capacités de Cortana, de généraliser un petit peu ce qu'elle sait faire, pour la faire croiser ces informations complètement disparates, hein, et ça passe par l'analyse de comment toi ou moi utilisons Windows ou Office. Parce que c'est quand même une grosse masse de données, hein. Office, il y a 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, et dans le monde de l'entreprise, toute la vie de certains salariés, elle est disponible à l'analyse pour les algos de deep learning de Microsoft. Donc chaque boîte doit utiliser ses atouts, c'est normal, hein. Toi, Pod, tu parieras sur quel assistant finalement ? Est-ce que Cortana est en bonne voie ou est-ce que l'avance de Google est trop importante ?
Alors, déjà... J'ai un biais, je l'ai déjà dit à multiples occasions, je suis pas utilisateur. Je haïs ça, parler déjà en général, même si ça s'entend pas forcément pour le podcast. Mais alors en plus, parler à une machine, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Cela étant, il commence à se développer sur Google Assistant des fonctionnalités de contrôle par la gestuelle. Lors d'une démo, notamment du Nest Hub, la personne qui était à l'écran a fait signe au Hub d'arrêter la musique, de se taire pour prendre un appel. Ça, c'est des choses qui me parlent. Et je pense que si Google est capable d'analyser et de verbaliser tout un certain nombre de choses en linguistique, alors le reste, pour eux, c'est probablement ultra, ultra, ultra facile, et c'est peut-être même l'une des raisons pour lesquelles ils sont attaqués à ça en premier. Je rappelle que, par exemple, nous, en tant qu'humains, on utilise un bon tiers de notre cerveau juste pour... verbaliser des concepts. Hein. Donc, ce qui nous coûte le plus cher en processus de réflexion, c'est pas de faire héberger des idées, c'est de les transmettre. Et donc, bref, tout ça pour dire que j'ai du mal aujourd'hui à voir en 2019 un autre acteur émerger. Cortana, j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec. Donc, je suis un petit peu plus neutre, on va dire, que par rapport à Alexa ou Siri. Et je suis sûr que Microsoft a les moyens de faire des choses qui sont très intéressantes, qui débouchent sur des vrais usages professionnels ou familiaux et qui ont des vrais impacts commerciaux. Je suis sûr qu'ils vont rentabiliser leurs investissements. Mais clairement, à mon avis, pour le moment, Google est parti pour mener la course en tête et pendant encore quelques années.
Oui, bah d'ailleurs, Microsoft se positionne pas frontalement en face de Google, qui est plutôt du côté de l'utilisateur final, hein, clairement, du grand public. Là, c'est vrai, Microsoft, d'ailleurs, la semaine dernière, a fait encore une démonstration de son futur idéal en entreprise, hein, une démonstration en dur, cette fois, plutôt que la traditionnelle vidéo futuriste à laquelle on était plus habitué. Ils ont aménagé 650 m² à Redmond, à Washington, à transformer en locaux d'entreprise du futur. Et donc à l'intérieur, bah écoute, il y avait beaucoup de surface, il n'y avait pas beaucoup de claviers de souris, il y avait de la réalité augmentée, des commandes vocales, de la vidéo projetée sur les murs mais tactile. Voilà, des conférences Skype en super qualité, assistées par Cortana bien sûr. Il y a une espèce de plot au centre de la table qui contient 6 caméras qui permet de tout filmer à 360 cette fois. Et l'IA peut suivre et zoomer les participants, donc afficher leur nom aussi en réalité augmentée, comme ça tu sais exactement. Ouais. Ça se focalise sur la personne qui parle et tu connais son nom, tu perds jamais le nom d'un collaborateur. Et voilà, sur un autre écran, il y a même des documents, les documents qui sont évoqués pendant la discussion, qui s'ouvrent tout seul. Tout cela est très très fluide. Et c'est une blague nulle d'ailleurs qui me permet de mentionner les démos du framework Fluid, dont on n'avait pas vraiment parlé la semaine dernière, il me semble. Donc c'est un nouveau format de document qui est ultra modulaire. C'est une sorte de Lego pour les documents de toutes sortes qui peuvent être assemblés comme souhaité par un nombre arbitraire de collaborateurs simultanément. C'est le futur d'Office en fait, hein. Il n'y a plus aucune distinction entre les applications, donc il y a des dizaines de personnes qui peuvent travailler simultanément sur un document qui n'est plus à format fixe, qui est complètement déconstruit pour arriver, je cite, à un canevas fluide. Oui, ça ressemble à Sway d'ailleurs, mais au mieux, et c'est pour cette année, avec d'ailleurs une kit de dev associée, et c'est un open source, voilà, c'est presque le leitmotiv de Microsoft cette année. On va y revenir d'ailleurs, mais toi, comment tu perçois ces bureaux du futur, est-ce que finalement on n'est pas plus terre à terre avec ces démos-là qu'avec les vidéos très futuristes qu'on a pu avoir par le passé de chez Microsoft.
Si, puis j'y ai pensé pas plus tard qu'il y a quelques minutes, puisque j'étais chez le médecin, et le médecin, il écrivait sur un ordinateur qui était rangé au format tablette, là. En tout cas, c'est un device que j'avais jamais vu, mais c'est bien un laptop qui est rangé là-dedans, mais il écrivait avec son stylet. Et quand on sait l'écriture d'un médecin, faut quand même pas avoir un système qui est la moitié d'un pour reconnaître ce qu'il écrit. Et ça marchait plutôt bien. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai mon ordonnance, tout ça. J'ai trouvé que, bah voilà, on était quand même pas si mal équipés dans le monde de Microsoft, même aujourd'hui, là, maintenant, sans parler de futur. Et effectivement, bah, cette démo-là, elle parle, elle est concrète. Et je pense qu'il y a des décisionnaires en entreprise qui peuvent se projeter dans cet univers beaucoup plus effectivement comme tu l'évoquais qu'avec les vidéos dont on avait l'habitude.
Ouais, je pense que je pense que ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que l'écriture d'un médecin ça peut un petit peu inquiéter.
Ouais, vérifie c'est un deux défi, fois hein. Quand même. Hein. Moi j'y arrive pas. Hein.
Si t'as des médocs, vérifie deux fois quand même que ce soit les bons. C'est jamais. Donc Fluid sera open source, hein. On avait évoqué la présence de Linux complet sous les prochaines versions de Windows, et voilà qu'après avoir gratifié la planète du code de la calculatrice, voilà que Microsoft ressuscite les Power Toys. Voilà, c'est un open source aussi, s'il vous plaît. Alors les Power Toys, c'est une vieille histoire, hein. Ça date de 95.
Ouais, je crois qu'il faut rappeler, ouais.
Ouais, c'est des micro-utilitaires pour des tâches comme changer la résolution d'écran rapidement, tu customises un peu plus l'interface, ou alors tu ouvres une ligne de commande, mais dans le répertoire dans lequel tu es. Voilà, c'est tout con, mais voilà, ça peut être pratique. Enfin, à l'origine, d'ailleurs, c'est des ingénieurs de Microsoft qui faisaient des protos hein, en fonction de ce qu'ils avaient envie de voir, et puis après, les meilleurs ont été compilés dans les Power Toys. Bon, c'est une vieille histoire, ça a disparu sous Windows XP, donc voilà... Hein. Et bon, ils sont de retour, mais cette fois en mode collaboratif sur GitHub. N'importe qui peut développer un Power Toys pour Windows 10. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Hein. Par exemple, un remplacement de WinAir, un Shortcut Manager, voilà, un Battery Tracker. Bon, ça, un petit peu tout ce que tu peux imaginer. Hein. C'est voilà, ou alors une possibilité de renommer par lot comme ça les trucs. Bon, en tous les cas, tout ça est open source et ce sera aussi le cas du nouveau futur terminal qu'on avait évoqué. Alors, c'est vrai que Pod, quand on voit ça, et comment est maltraité, ou juste pas traité du tout, AOSP, la version open source d'Android, chez Google, bon, alors, est-ce que Google se Microsoftise, ou est-ce qu'il s'appelise? Ou alors, est-ce que Microsoft se Googleise-t-il en se Linuxisant? Je sais pas, je m'interroge.
Je pense que clairement Microsoft est en train d'adopter des choses que Google avait dans son ADN il y a encore quelques années et que Google par contre s'intéresse de plus en plus au modèle d'Apple qui s'intéresse de plus en plus à ne pas changer pour Google il y a quand même eu pas mal d'annonces. En tout cas, les conférenciers de chaque conférence à Google I.O., à chaque fois qu'ils annonçaient quelque chose, ont toujours pris le soin d'annoncer que tel et tel serait dans AOSP. Donc, il n'y a pas eu, comme l'année dernière et l'année d'avant, une telle prise de pouvoir parce qu'on appelle les Google Play Services, donc qui est un jeu d'API et d'app qui viennent avec l'univers de Google et qui ne sont pas inclus dans Android. Y a pas eu autant un effet de vague de ça. Par contre, Google Assistant, lui, prend en main un certain nombre de fonctionnalités qui font partie du monde applicatif. Et donc, c'est oui, ça reste quand même de moins en moins ouvert. Je disais à certains de mes collègues pour blaguer que la première conférence de Google I.O. c'était pour nous expliquer qu'on n'avait plus de boulot, et la deuxième conférence c'était pour nous dire si attendez, il reste des trucs quand même. Mais clairement, il y a des ruptures culturelles au niveau de Microsoft. Ça fait longtemps qu'on en parle et ça avait commencé par le cloud. Et il y a aussi une rupture culturelle chez Google qui est en train de s'opérer.
Bon, écoute, tout ça, c'est vrai. Bon, on verra bien comment ça tourne. En tout cas, heureusement, je pense qu'aucun d'entre ces deux-là ne se Facebookise. Mais bon, on va parler tout de suite. Mais avant de passer à la rubrique suivante, je me dois quand même de remercier tous les auditeurs de ce podcast pour leur attention, pour leurs commentaires. Et bien sûr aussi, merci tout particulier aux Patriotes. Parce que Tech Café, c'est un podcast indépendant, soutenu par ses auditeurs. Donc voilà, si vous souhaitez nous soutenir avec le prix d'un café, d'un croissant, d'une bière, d'un mojito, de stylo bic, je sais pas, par épisode, n'hésitez pas, allez sur techcafé.fr et vous y trouverez les notes de chaque émission, hein, qui constituent le conducteur de l'émission en question, mais aussi les sources, avec tous les liens sur lesquels nous nous basons pour les épisodes. Donc le lien vers le Patreon est aussi disponible, le groupe Telegram. Et vous pourrez aussi éventuellement y laisser des commentaires si vous le voulez. Et mieux encore, hein, vous pouvez nous donner plein d'étoiles sur iTunes et partout où on peut mettre des étoiles en général. Voilà, donc merci beaucoup. On va enchaîner sur une rubrique qui est presque traditionnelle désormais, la rubrique Facebook. Et oui, ne vous inquiétez pas, on aura bien un petit SFS aussi cette année. Alors, faut-il démanteler Facebook? Voilà, le casser en trois entités, comme avant les achats en fait, hein, qu'il a fait, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp et Instagram. Comme aux trois boîtes qui seraient totalement séparées, indépendantes. Bon, on a déjà pas mal parlé de ça et on a eu longtemps l'impression de parler un peu dans le vide tant il semblait peu probable que ça se fasse. Pourtant, cette semaine encore, une voix supplémentaire hein, s'est jointe à celle déjà nombreuse, hein, des politiques et des cadres, souvent des ex-cadres, de l'entreprise elle-même pour appeler à casser Facebook, c'est celle de Chris Hughes. Alors Chris Hughes, c'était le camarade de chambrée de Mark Zuckerberg, hein, il est cofondateur de Facebook en 2004. Chris n'est pas un codeur d'ailleurs, hein. Il était là pour le design, les fonctionnalités, il était surnommé « l'empathe » parce qu'il percevait ce qui allait plaire aux gens, ce qui les ferait préférer Facebook. Néanmoins, il est parti de la boîte en 2007 pour travailler sur la campagne de Barack Obama, et il n'a même plus d'action Facebook d'ailleurs, il les a liquidés en 2012, c'est peut-être aussi pour ça qu'il se peut se permettre de pondre un très très long article dans le New York Times, accompagné d'une vidéo d'ailleurs, hein, pour argumenter sur le démantèlement de Facebook. Voilà, bon, on connaît la musique, hein, il est trop gros, trop puissant, Mark Zuckerberg est à sa tête à tous les pouvoirs, hein, il ne peut pas être viré ni contredit puisqu'il a 60% de voix. L'argument principal est bien connu, hein, depuis 2011, il n'y a aucun concurrent, voilà, donc c'est un monopole de fait, et c'est même un cas d'école pour nous antitrust, hein, le groupe Facebook c'est 6 milliards d'utilisateurs actifs, soit nettement plus que YouTube, WeChat, TikTok, Reddit, LinkedIn, Twitter et Snapchat réunis. Voilà, donc c'est aussi dans les 500 milliards de dollars en bourse. Donc évidemment, c'est pas évident pour un concurrent de rentrer dans le jeu à partir de rien. Ouais, casser Facebook, d'ailleurs, ça ferait automatiquement trois boîtes qui lutteraient entre elles. Et voilà, bon, c'est... Alors évidemment, Facebook, c'est aussi un nombre conséquent de problèmes, de scandales, de propagande, etc. On va pas revenir dessus. Enfin, pas maintenant. Et d'ailleurs, Chris Hughes reconnaît les efforts quand même un peu faits pour limiter la casse. Hein. Les war rooms, la modération, le chiffrement systématique prochainement... Et même les appels à la régularisation de Mark Zuckerberg, mais pour lui, ben c'est pas suffisant. Voilà, il faut non seulement réguler, mais aussi scinder l'entreprise en morceaux. En fait, c'est toujours ce qu'il a voulu. Hein. Il faut même savoir qu'au début, il pensait que chaque école devait avoir un réseau séparé, puisque ça a commencé comme un réseau privé à Harvard. Et il voulait que chaque école garde ses codes et sa culture. Donc finalement, il est resté finalement assez fidèle à lui-même. Bon, comme on avait déjà parlé, il y a beaucoup de politiques qui vont aussi dans ce sens, Elizabeth Warren, dont on a déjà parlé, Sanders, et tout dernièrement, Kamala Harris, une autre sénatrice, et surtout, une autre sénatrice qui est aussi, je crois, candidate à la primaire. Bon, il y a aussi, évidemment, plein de cadres de Facebook, hein, quand même, c'est notable, comme Brian Acton, qui est ex-CEO de WhatsApp, mais aussi Chamath Palihapitiya, qui est responsable croissance, qui était responsable croissance au début, puis Sean Parker, premier président, Justin Rosenstein, qui est le développeur du bouton like, Dustin Moskowitz, qui est lui aussi cofondateur, il n'y a que 5 cofondateurs à Facebook. Et voilà, bon, globalement, pour Nick Clegg, oui, l'ancien ministre anglais, qui est désormais donc responsable relations publiques internationales de Facebook, ben, c'est pas une solution parce que ça punirait les entreprises qui ont du succès. Les gros moyens de Facebook, d'ailleurs, lui permettraient de prendre des mesures ambitieuses que les petites entreprises ne pourraient pas prendre. Bon, on peut se dire aussi que les petites entreprises n'auraient peut-être pas ce genre de problème, mais bon, voilà. C'est vrai qu'avec une boîte aussi grosse que Facebook, c'est normal qu'il y ait toutes sortes d'opinions. Alors Facebook, est-ce qu'il faut le casser pour toi, Pod, ou pas ?
Bah, pour je veux dire...
Bien sûr que oui, mais c'est... tu peux le dire.
Non, mais c'est quand même drôle, parce que c'est le seul truc sur lequel les démocrates et les républicains sont d'accord, c'est que Facebook est biaisé pour l'autre côté de l'échiquier politique. Bon, est-ce qu'il est biaisé ? Probablement pas. Est-ce qu'il y a des effets de bulle ? Probablement. Est-ce qu'ils sont aussi importants que sur Twitter ? Probablement pas. Mais est-ce qu'il y a autant de gens que sur Twitter ? Bah, il y en a beaucoup plus. Évidemment, Facebook, voilà, ça pose problème. Puis les politiques, ils aiment bien en parler parce qu'ils se sentent concernés, parce que ce qui est en jeu pour eux, eh ben, c'est leur carrière à eux. Cela dit, et même si les chiffres que tu as cités sont impressionnants, je pense qu'il y a d'autres groupes. Bon, on en parlera d'ailleurs à la fin de cette rubrique, qui mériterait des petites corrections de libéralisme, et par libéralisme j'entends par libre accès au marché, et je suis pas sûr d'ailleurs que casser Facebook ça aurait un effet sur le marché, parce que ça va être des boîtes de quoi ? Ils ont qu'un seul modèle de revenu, c'est la pub, donc qu'est-ce qu'on sépare exactement ?
Oui, c'est vrai. Et puis en plus, ça fait, ça sera un tripole, quoi, du coup, hein, puisque
c'est pas comme un Amazon où on peut lui dire, écoute, t'as tes livres d'un côté, t'as tes devices de l'autre. C'est pas la même boîte. C'est pas comme un Microsoft où on lui dit, bah, t'as ton hardware, t'as ton software, ou ton OS et tes apps, et c'est deux choses différentes. Là, en vrai, il y a des pages web qui sont des réseaux sociaux, certes, mais qui pourraient être tout et n'importe quoi. Et puis il y a des il y a une régie de vente et puis c'est tout, et puis si on sépare les réseaux sociaux le réseau social Facebook en trois, et ben les utilisateurs ils vont tous aller sur le même, hein. Il y a pas à moins qu'on organise comme sur Pokémon Go une compétition entre les utilisateurs, là oui ça va à peu près uniformément se répartir, mais je suis pas sûr que l'ambiance soit très chaude. Bon, je sais pas vraiment quelle pourrait être la solution. Pour une fois, je suis peut-être un peu plus côté Zuckerberg pour la régulation et des cadres légaux, que rien ne lui empêche d'ailleurs de devancer, hein, largement. Mais le démantèlement, ben oui. Maintenant, j'aimerais voir une proposition concrète de comment ça se présente. Qu'est-ce qu'on propose comme division d'entreprise?
Ouais, c'est vrai que c'est un problème qui est quand même extrêmement compliqué, parce que effectivement, si au sein de Facebook et Instagram, ce sera un autre mastodonte. Oui, effectivement, ça ne va pas changer grand-chose. Bon, Facebook fait des efforts quand même, hein. Il y a les War Rooms à chaque élection, il y en a une qui s'est mise en place pour les élections européennes d'ailleurs. Il y a le récent bannissement d'Alex Jones et des suprémacistes, il y a aussi pas mal d'efforts de dev en algorithme de filtrage, hein, et on a évoqué ça plusieurs fois déjà. Et bon, récemment, il a aussi promis d'améliorer les conditions contractuelles, d'ailleurs, qui travaillent dans l'ombre pour modérer ou entraîner les IA. Les salaires minimums étaient de $15 de l'heure, par exemple. Ils vont monter entre 18 et $20 selon la position géographique. Les modérateurs, en particulier, recevront, eux, entre 20 et $22 de l'heure. C'est un boulot super ingrat qui gagne donc un petit peu plus. Et puis, il y aura aussi la mise en place de nouveaux outils, hein, pour améliorer leurs conditions de travail. Il y aura du conseil, du soutien psychologique, la possibilité de flouter les images aussi, même avant de les passer en revue, pour essayer de les... des conditions de travail qui sont, voilà, c'est des travers qui sont indispensables à la vie de la plateforme, hein, c'est des conditions qui sont pas brillantes. Il y a de multiples articles, d'ailleurs, comme celui de The Verge en février dernier, qui l'ont souligné. Bon, c'est toujours positif quand même de voir des progrès, même si ça restera un boulot ingrat. Pour encore un bout de temps, parce qu'avant que les algos soient suffisamment sophistiqués pour faire même 90% du boulot, je pense que ça ne sera pas fait encore avant plusieurs années. Donc voilà, alors Facebook agit certes, mais malheureusement, il reste beaucoup à faire, puisque oui, c'est le moment du SFS, du scandale Facebook de la semaine, puisque cette fois c'est la révélation du National Whistleblower Center, donc le Centre National des Lanceurs d'Alerte de Washington, qui est, donc ça a été relayé par l'AFP, c'est une news selon laquelle Facebook générerait du contenu automatique pour les groupes terroristes. Voilà, parce que Al-Qaïda et l'État islamique, hein, évidemment, ils sont largement présents sur le réseau. Leur succès auprès d'un certain public fait que Facebook, comme pour d'autres groupes populaires, bah, génère automatiquement des événements de célébration, de souvenirs, etc. Bon, donc de manière parfaitement involontaire, mais incroyablement maladroite, voire incompétente, Facebook produit donc directement du contenu terroriste. Donc c'est un rapport de 48 pages qui résume la situation en écrivant que les efforts de Facebook concernant le contenu terroriste ont été faibles et inefficaces, je cite, donc voilà, même si Facebook assure qu'il dégage ce type de contenu beaucoup plus et beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, bah, il y a encore du boulot. T'imagines du coup comment c'était il y a 2 ans, Pierre-Olivier ?
Ouais, j'aimerais pas trop voir les vidéos genre 10 ans d'amitié avec machin, et puis des petites photos de décapitation, des trucs sympas. Voilà, ouais, je pense que ça a dû être très sale, effectivement.
Là, il y a certainement des gros soucis. Bon, bah oui, qu'est-ce que tu veux, grosse responsabilité, hein, puisque gros pouvoir. Alors, tu en parlais, tu l'avais hasardé, hein, effectivement, puisqu'on parle de monopole, on peut terminer cette rubrique avec Apple. Et oui, c'est la rubrique Facebook, mais on peut quand même parler d'Apple. Ce matin est tombée une mauvaise nouvelle pour la pomme, hein, puisque la Cour suprême des États-Unis vient d'autoriser une class action contre lui en ce qui concerne l'App Store. Voilà, c'est un store unique, hein, officiellement, évidemment, c'est l'unique manière de prendre des logiciels sur iOS. Et donc, qui donc, vous le savez, coûte 30% de leurs revenus aux devs qui l'utilisent. Hein, et donc, il est attaqué depuis 2011 pour abus de position dominante, une position qui voilà, rend virtuellement inévitable les 30% de commission, qui se transforme ainsi en une sorte de taxe Apple, et qui donc aurait tiré les prix vers le haut. Bon, on avait déjà parlé de cette affaire, j'ai peut-être déjà évoqué qu'il y avait un précédent de 1977, hein, qui permettait à Apple d'objecter que seuls les devs pouvaient attaquer, mais finalement, ça n'a pas été l'avis de la Cour suprême. Alors du coup, tu voulais nous en parler peut-être, Pierre-Olivier ?
Oui, effectivement, je trouvais que c'était important d'en parler parce que avec les différents décisions de justice et procès qu'il y a pu y avoir en Europe, la question qui revient souvent, c'est « Ok, mais pourquoi Google est condamné et pas Apple alors qu'ils font bien pire ?» Alors, déjà, on va revoir les termes, il n'y a pas de bien pire, hein, il y a des bien plus de dommages ou bien plus de préjudices, et c'est la notion qui est importante, c'est la notion de préjudice. Il n'y a pas de crime sans victime, et donc par conséquent, la raison principale pour laquelle Apple n'a jamais été inquiété plus que ça en Europe, c'est les faible part de marché de l'entreprise. C'est-à-dire que si on a entre 12 et 20% de part de marché, même si on a des pratiques monopolistiques sur son écosystème, on n'opère pas une distorsion suffisamment grande du marché pour que les institutions estiment qu'il y a un préjudice, qu'il y a des victimes de ce fait-là. Évidemment, la situation, elle est totalement différente aux États-Unis. Et c'est pour ça que cette décision de la Cour suprême, elle est très intéressante. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'aux yeux de la justice américaine, Apple viole les lois antitrust et a des pratiques anticoncurrentielles. Ça veut simplement dire que oui, les gens, effectivement, peuvent attaquer Apple au motif que leurs pratiques déforme le marché et donc l'offre qu'ils reçoivent et dont ils bénéficient. Et en ces moments où, à cette époque où ils sont attaqués par notamment Spotify et d'autres pour les mêmes pratiques, bah voilà, c'est une nouvelle qui est quand même importante et qui est le début de notre peut-être prochaine saga judiciaire de l'été.
Mais oui, mais on a perdu Qualcomm, mais là, finalement, on va peut-être avoir des nouveaux candidats. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant, parce que bon, c'est cette histoire d'App Store unique, moi, c'est vrai que ça m'a toujours gonflé, en tout cas sur iOS. Je ne me suis jamais beaucoup caché que je préférais très largement la solution Android, où bon, ben, on a un store officiel, mais on peut très bien en installer autant qu'on veut, et enfin, je trouvais ça beaucoup plus normal. Mais bon, voilà, ce n'est que mon opinion. En tous les cas, c'est clair que si Apple perd si tu veux, s'il perd dans plusieurs années, hein, parce que comme tu disais, là, c'est juste la possibilité de poursuivre en justice. Donc après, il va y avoir très très longue période de procédure. En tout cas, si à terme, Apple perd donc le procès, t'imagines, parce que du coup, les clients estiment qu'il y a un surcoût à cause des 30%, donc ça veut dire qu'il va y avoir un calcul de fait de ce surcoût en termes de préjudice, Mais ça pourrait, et vu le nombre de logiciels et d'achats, enfin le budget, enfin tout ce que le chiffre d'affaires que génère l'App Store chaque année, ça pourrait aboutir à une amende proprement astronomique.
Tout à fait. Et les États-Unis se sont jamais gênés, même si ces dernières années on a entendu beaucoup parler des amendes européennes. Les États-Unis sont jamais gênés pour infliger des amendes ultra records là-dessus. Hein.
Ben non, mais en tout cas, ça va être vraiment très intéressant. Donc, c'est un très très gros enjeu pour Apple. C'est peut-être même un encore plus gros enjeu qu'avec Qualcomm. Donc, oui, c'est clairement un truc à suivre. Et puis, on verra bien s'il y a oui ou non une amende astronomique à la fin. En tous les cas, astronomique, notre prochaine section l'est aussi, astronomique, astronautique, puisqu'on va parler d'espace. Et oui, et oui, parce que c'est la saison, c'est le moment, qu'est-ce que tu veux, souviens-toi, en 69, le premier homme sur la Lune, le grand pas pour l'humanité, tout ça, tout ça. Et bon, je dis ça, mais évidemment, j'étais pas né. Cela dit, cette année, c'est évidemment le cinquantenaire de l'homme sur la Lune, et évidemment, la NASA veut fêter ça. Donc l'anniversaire proprement dit, ce sera en juillet, mais si vous voulez raconter vos souvenirs de cet événement historique, le site de la NASA récolte des témoignages pour une petite série audio. Voilà, c'est toujours sympa. Bon, évidemment, même s'il y a eu plusieurs missions, on ne peut pas dire que la Lune soit devenue une banlieue de la Terre hein, depuis. Hein, malheureusement, on n'y est pas retourné depuis l'arrêt des missions Apollo en 75, hein, si je ne me trompe pas. Alors évidemment, ça fait quelque chose quand même de voir la NASA reprendre un programme lunaire. Et oui, le but, c'est de renvoyer des astronautes, dont une femme, sur la Lune en 2024, et voilà, ce sera le programme Artemis, qui est au passage la sœur d'Apollon, Apollo en anglais bien entendu. Donc, le premier homme, en fait, c'est la première femme sur la Lune, donc parce que le premier homme s'est fait, mais la première femme sur la Lune doit être américaine. C'est le vœu de la présidence, hein, qui a débloqué quand même pas mal de pognon, 12,3 milliards de dollars au total, pour un programme sur 5 ans. Alors je sais que ça peut sembler un petit peu futile alors que l'hiver vient, ou l'été, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, quand même, c'est un truc qui fait un petit peu rêver, ça, le retour des grands programmes spatiaux, non ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, par contre, 5 ans...
T'y crois pas ?
C'est-à-dire que j'ai déjà du mal à visionner comment on va poser un toit sur une église en 5 ans, alors poser un engin spatial sur un satellite... voilà, je pense que... Mais c'est bien, je veux dire, si l'argent est sur la table, moi, de toute façon, je suis content, et peu importe si on est en retard sur le calendrier, c'est très cool, ça serait bien que d'autres pays le fassent, mais le bénéfice de scientifique de revenir sur la Lune, pour moi, il outrepasse grandement le fait que ce soit tonton Donald qui mette de l'argent là-dessus, et pas que j'ai des trucs contre Donald, ou en tout cas, ça ne regarde pas forcément les auditeurs, mais plus la réflexion par rapport à une coalition internationale, j'entends, comme celle qui a mis sur pied la Station Spatiale Internationale, laquelle, je le rappelle, enfin je le rappelle pas parce qu'on n'en a pas parlé, il me semble, mais laquelle se meurt et va bientôt être mise à la retraite, et pour laquelle il n'y a pas de projet de remplacement. Bref, il y a des choses à faire, et il est temps justement qu'il y ait quelqu'un qui mette de l'oseille sur la table, parce qu'effectivement ça fait longtemps que les agences spatiales n'ont pas vu la couleur de l'argent.
Oui, c'est des choses qui sont extrêmement chères. Oui, tu as raison, l'ISS, effectivement, et d'ailleurs, c'est assez rapide, hein, c'est dans quelques années, mais je ne sais pas si c'est pas dans 2 ans ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, enfin, on n'a juste pas le temps d'en monter une en partant de l'actuelle. Voilà. Cette opportunité, elle est déjà manquée.
Exactement, oui, donc c'est vrai que c'est assez triste, là. Il y aura bientôt plus de Station Spatiale Internationale, qui est, je le rappelle, le laboratoire hein, scientifique quand même, dans lequel sont faites des expériences tous les jours, et qui évidemment ont une très grande valeur, parce que c'est pas des expériences qu'on peut faire très facilement, les expériences en microgravité, et bon, les trucs sur les rayons cosmiques, etc. Donc oui, tu as raison, la Lune, écoute, oui, moi je pense que c'est aussi, c'est quand même stimulant hein, de voir ces grands programmes qui peuvent être... qui peuvent paraître un petit peu disons hors sol, mais qui sont vraiment très, très ambitieux. Et bon, c'est vrai que la Lune a été la cible un petit peu de toutes les ambitions cette semaine, puisque la conférence donnée par Jeff Bezos concernant les plans de Blue Origin, donc son entreprise spatiale, était quand même assez marquante quand même, puisque voilà, lui, il dit carrément qu'il est non seulement temps de retourner sur la Lune, mais que cette fois, ce serait pour y rester. Alors Bezos, on le sait, hein, c'est un fan d'espace, il a redit qu'il ne sentait... Il se sentait, lui, la mission de créer un petit peu les infrastructures spatiales pour les générations à venir. Il a même dit qu'il avait réussi avec Amazon parce qu'il a pu s'appuyer sur des infrastructures existantes et très efficaces, et que pour l'espace, ben, elles n'existent pas, et qu'il va employer sa fortune à les créer, en quelque sorte, faire le sale boulot. Alors, on avait évoqué New Shepard la dernière fois, qui avait réussi un vol d'essai la semaine dernière, donc à la conf, Bezos a présenté Blue Moon, qui est un module lunaire, avec une charge utile de 3 tonnes 6, voire 6 tonnes 5 d'ailleurs, avec des modules additionnels. Alors, faut savoir que Bezos injecte quand même environ 1 milliard de dollars par an dans Blue Origin, donc voilà, c'est bien sûr, il serait quand même ravi d'avoir des contrats avec la NASA, hein, comme SpaceX avec ses fusées Falcon. Bon, si Bezos est à rapprocher quand même un petit peu d'Elon Musk dans la passion et l'ambition comme ça des programmes spatiaux, ils n'ont pas vraiment les mêmes... ils sont pas d'accord sur les moyens, quoi, hein, parce que Musk veut coloniser Mars, alors que Bezos préfère à l'espace proche, la Lune, l'orbite terrestre, où il voit, dans un avenir bon, quand même assez lointain, hein, faut pas se mentir, des colonies spatiales, hein, sous forme de cylindres d'O'Neill en rotation, qui tirent leurs ressources du Soleil et des astéroïdes. Bon, on nage en pleine science-fiction, je suis bien d'accord, bon, après, c'est pas mal de rêver de temps en temps, d'autant que le rêveur est quand même l'homme le plus riche du monde, et qu'il a suffisamment d'argent pour financer 10 projets Artemis à lui tout seul. Du coup, écoute, pourquoi pas. Ça t'inspire, toi, enfin, ça inspire, toi, ces gros, ouais, cylindres comme ça.
Je trouve que c'est très bien résumé, la dualité avec Elon. Effectivement, bon, les cylindres, je sais pas si ça tient la route d'un point de vue scientifique ou technique, mais ouais, je le redis, l'espace, c'est un secteur qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'il n'en a aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un secteur qui bénéficie de la concurrence plus que de la coopération internationale. J'ai plus tendance à penser que ça serait cool que tout le monde s'assoie sur le bord de la table, ne serait-ce qu'une fois par an pour discuter de ça. Mais pourquoi pas ? Du moment qu'on va de l'avant, moi ça me va, peu importe la méthode.
Bah, moi, j'avais évoqué la dernière fois, très brièvement, le New Space, cette notion de New Space qui était la privatisation de l'espace, en fait. Hein,
tout à fait.
Qui avait cette espèce de vertu, quand même, de faire baisser les prix, tout simplement. C'est-à-dire que, comme c'est des entreprises privées, évidemment, les lancements, enfin, je veux dire, ils vont pas mettre 500 millions de dollars par lancé, quoi, c'est évident. Du coup, il y avait quand même pas mal de ça bougeait beaucoup, et dans tous les pays. Et d'ailleurs, j'avais mentionné que l'Europe était aussi, bah, faisait aussi partie du jeu. Au niveau technologique, même si effectivement au niveau des moyens et du budget, on n'y était pas du tout. Et c'est sûr que les acteurs comme Bezos qui sont autofinancés et qui pourront rester autofinancés pendant encore 10, 20, 30 ans, bon, voilà, on n'a pas trop ça en Europe, et c'est vrai que malheureusement le secteur risque de souffrir chez nous à cause de ça, quoi. Mais bon, le New Space, toi, tu penses que c'est... Enfin, tu penses qu'on a plus de chances de rester sur la Lune ou d'avoir des projets ambitieux avec cette espèce de New Space, ou avec au contraire, il faut plus de trucs, disons, des choses qui viennent des États, mais des collaborations internationales.
En fait, moi, ça ne me dérange pas qu'on lance des satellites et qu'on ait des opérations commerciales qui sont menées par des entreprises privées. Je trouve ça beaucoup plus... juste et équitable que d'avoir un monopole d'Ariane ou de ses consorts pour aller shooter des satellites. Et ce qui m'embête, c'est l'état dans lequel est la recherche. Que SpaceX ait dû développer toute sa stack pour balancer des trucs dans l'espace parce que la stack américaine avait 60 ans et puait la poussière et coûtait une blinde à envoyer parce que personne s'est dit tiens, on va changer ça, on va faire évoluer. C'est ça qui me désole un petit peu parce que demain si Bezos meurt, c'est pas dit que sa succession ait la même ambition, idem avec Elon Musk et idem de toute façon avec la plupart de ces acteurs-là, parce que ce sont pas des acteurs privés j'allais dire traditionnels, c'est des entreprises très personnelles, pour pas dire paternaliste, comme on l'entend parfois en Europe auprès de certains acteurs industriels, je pense notamment à Martin Bouygues et son groupe, et parce que c'est des entreprises personnelles, et ben les ambitions du moment sont pas forcément les ambitions à 10, 20, 30 ans, et quand on parle d'espace, on est plutôt à 50, 100 ans en termes d'ambition. Donc c'est très délicat de, je trouve, d'avoir une vraie stratégie sur l'espace qui soit privative. Et pourtant, bah, ça n'empêche pas d'injecter de l'argent sur le secteur. Et je pense que chacun devrait un peu revenir à son métier. Bon, voilà, c'est difficile d'essayer de résumer ça, et ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'un hors-série particulier, la technologie, l'espace et son secteur économique. Voilà.
Oui, non, c'est vrai que, bah, comme tu le disais, effectivement, cette espèce de new space, ça peut être vu de plusieurs manières. Force est de constater que ça a permis de moderniser un petit peu un certain nombre de choses, parce que oui, la NASA est en perte de vitesse, de toute façon, depuis depuis la dernière explosion et surtout depuis la retraite de la navette spatiale. On peut pas vraiment dire que ça a été forcément la
Non, c'est
joie tout
ça.
le temps, quoi.
Faut se rappeler que pendant longtemps, la station spatiale internationale a été ravitaillée que par du Soyouz, quoi.
Par Soyouz, oui, tout à fait.
Bon, ça marche, hein, mais bon, c'est quand même la technique du lance-pierre, quoi.
Oui, oui, c'est ça. C'est une espèce de trègue de bidon très, très, très solide. Oui,
Exact.
bon, enfin, écoute, non, mais c'est vraiment intéressant. T'as raison que si les technologies spatiales, c'est quand même, ça devient, je pense, quelque chose effectivement qui est passionnant à suivre, même dans le cadre d'une veille tech, en fait, tout court. Et bon, peut-être qu'on fera un truc comme ça, on verra. Bon, pour le moment, puisqu'on évoque Elon Musk, hein, on peut en profiter aussi pour relayer en vitesse le lancement du premier batch de microsatellites qui constitueront à terme le réseau Space Link, l'Internet donc via l'espace, hein, une constellation de 11 000 satellites à terme, hein, qui débute avec un paquet de 60, dont t'en as une photo tout récemment, bien impactée même, hein, dans une Falcon 9. Le lancement est prévu le 15 mai. C'est un chantier assez incroyable, hein, autant que les déboires de Musk lui-même, hein, qui au passage d'ailleurs repart au tribunal pour avoir insulté le plongeur Vernon Unsworth, qu'il a très bien traité de pédophile, lors de l'histoire des enfants prisonniers là, dans une caverne en Thaïlande l'an dernier. Voilà, décidément Twitter est mauvais pour la santé. C'est vraiment dommage d'ailleurs que ça ternisse l'image de Musk et de ce qu'il fait, parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir la taille, parce que le lanceur Falcon 9 est assez gros, quoi. Et les 60 satellites empaquetés comme ça, il y a une photo où il y a l'échelle avec une voiture donc, qui est placée au centre pour qu'on voit bien. C'est quand on imagine effectivement s'il y a vraiment 11 000 satellites qui sont lancés, c'est vrai que ça donne un petit peu le tournis. Même si, bon, là on l'a redit, on n'est pas complètement certain que ce soit aussi pertinent que ça pour avoir, en tout cas, disons, dans toutes les zones géographiques, quoi.
Bah, les
Donc voilà.
microsatellites, c'est ultra pertinent. Pour avoir Internet, effectivement, la question se pose.
Ouais, voilà, exactement, exactement. Écoute, dans la série des fusées, il y a aussi les missiles. Voilà, c'est des petits engins qui sont assez pratiques, hein, si tu veux faire péter des trucs. Mais en général, c'est pour faire péter des trucs assez gros. Et bon, malgré ce que les relations publiques américaines ont pu nous dire, faire des frappes chirurgicales avec un missile, c'est pas facile. Sauf si le missile n'explose pas. Voilà. Et donc il y a des missiles Hellfire modifiés, qui sont les R9X. L'armée américaine les a modifiés pour remplacer des explosifs par des lames. Le missile Ninja, donc, arrive à toute berzingue et déploie 50 kilos de métal, et métal effilé qui tranche tout et n'importe quoi. Les voitures blindées, le béton, les terroristes, voilà. Pour le coup, il est possible de détruire une voiture isolée sans rien endommager autour. C'est un truc qui est développé depuis 2011. Le missile a pour l'instant été utilisé que 6 fois, mais il est prometteur, d'après ce que j'ai vu. Finalement, bah, c'est vrai, hein, envoyer une enclume à 400 km/h sur ton ennemi, bah, ça marche bien aussi. Tu as vu, je sais pas si tu avais vu passer ça,
J'avais
c'était
pas vu passer, voilà. Bah, c'est
non mais sans doute une bonne idée, écoute. Tant que ça peut réduire les dommages collatéraux, moi je dis. Écoute, en parlant d'enclumes qui vont à 400 km/h, les Japonais planchent sur un nouveau TGV. Alors eux, ils disent Shinkansen, ce qui veut dire en fait nouvelle ligne interurbaine, qui atteindrait les 400 km/h. Voilà, ça aurait une vitesse. Ils auraient quand même une vitesse d'exploitation un petit peu plus basse, de 360 km/h. Hein, c'est prévu pour aller de Sendai à Aomori en 2030, donc c'est quand même pas pour tout de suite. Et donc l'Alpha X, un nez ultra profilé de 22 mètres, et ce sera le train le plus rapide sur rail, même s'il devrait y avoir une ligne avec la lévitation magnétique entre Tokyo et Nagoya en 2027, donc un petit peu avant, avec des pics à 505 km/h. Alors je me suis demandé, à l'heure actuelle, quels sont les trains les plus rapides du monde? Est-ce que c'est l'inouï? Parce que tu n'es pas sans savoir que, sans ignorer, enfin je sais pas, que notre TGV a perdu son appellation de TGV pour s'appeler Inouï désormais dans notre beau
Non,
pays.
je ne savais pas. Mais par contre, je doute que ce soit le train le plus rapide.
En effet, ouais, le plus rapide, c'est le Maglev de Shanghai, qui est une navette qui parcourt seulement 30 bornes, mais qui les fait quand même à 431 km/h, donc c'est la plus rapide.
Ça fait beaucoup de G quand même, ça, non?
Ouais, non, mais ça doit être très impressionnant. C'est 8 $ le ticket pour 30 km, donc c'est quand même très cher. Mais c'est, oui, ça doit être très impressionnant, rien que pour le ride, ça doit valoir le coup. Mais alors, évidemment, ça c'est sur Maglev, donc c'est à lévitation magnétique. Hein. Sur rail, évidemment, c'est un petit peu moins, mais c'est encore les Chinois. C'est le Fuxing Hao qui roule à 400 km/h. Après, évidemment, ils viennent les Shinkansen, hein, donc, qui depuis longtemps sont des très grandes vitesses assez rapides. Eux, ils plafonnent à 360 km/h. Et puis après, il y a les TGV italiens, espagnols, allemands et coréens qui roulent entre 350 et 330 à peu près. Et enfin, notre bon vieux TGV inouï, qui lui roule à 320 km/h, donc voilà, peut-être qu'il se ferait tant qu'il se réveille à la SNCF. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas les premiers, loin de là.
Juste pour préciser, les vitesses que tu évoques là, ce sont les vitesses d'opération.
D'exploitation, ouais, oui, les vitesses d'exploitation, ce n'est pas les vitesses maximales. Effectivement, le TGV, d'ailleurs, sur des lignes expérimentales et des lignes particulières, est arrivé à beaucoup plus que ça, mais à d'exploitation, voilà, il est limité à 320 km/h. Bon, est-ce qu'on peut clore cette section? Non, pas encore, puisqu'on ne peut pas clore cette section, parce qu'on ne peut pas ne pas mentionner un magnifique scandale, en rapport avec l'aéronautique aussi d'ailleurs, un scandale Delta Airlines, dont le service communication, ben, en fait, n'a pas de race. Voilà, il faut bien le reconnaître, on ne peut pas le dire autrement. C'est, voilà, parce que bon, comme toutes les grandes boîtes américaines, Delta n'apprécie pas que ses employés aient des velléités de syndicalisation. Alors, quand la IAM, je sais pas, c'est en tout cas la International Association of Machinists and Aerospace Workers, un syndicat de quand même 110 000 employés du secteur aérien, qui voulait inciter les 44 000 employés de Delta à les rejoindre, la firme elle va contre-attaquer avec une campagne de pub de très très bon goût. Hein, voilà, c'est parce que effectivement, ce syndicat coûte cher, $700 par an, alors qu'une console de jeux vidéo, c'est moins cher et plus fun. Et oui, c'est véridique, hein, je n'invente rien, c'est ce qui est écrit sur les panneaux diffusés par Delta. Donc le message, c'est joue aux jeux vidéo et ferme ta gueule. Bon, un tel niveau de bêtise et de mépris n'est pas très bien passé, hein, ni chez les syndicalistes, ni chez les politiques. Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait besoin d'en dire beaucoup plus. Hein, si t'as vu passer ça, moi, ça m'a halluciné.
Ça se passe pas mal de commentaires. Juste peut-être pour mettre dans le contexte nos auditeurs en Europe. En Amérique du Nord, la syndicalisation est obligatoire. Donc s'il y a un syndicat de l'entreprise, la cotisation, donc ici on parle de $700, ce qui est pas grand-chose pour une cotisation syndicale d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle s'adresse à tout le monde. Hein. Quand on dit aux gens ne vous syndiquez pas, le message en arrière, c'est plus exactement dissuader vos collègues de se syndiquer pour que vous n'ayez pas à payer les cotisations syndicales obligatoires.
Oui, c'est vrai que c'est une meilleure. Du coup, ils veulent pas qu'ils se syndiquent IAM.
Oh, n'importe, a priori. Hein, et en ce moment, il y a peut-être, je suis pas dans les inside de la compagnie, donc il y a peut-être une grande centrale syndicale qui essaye de syndiquer l'entreprise, mais en général, ils arrivent pas seuls. Il y en a souvent deux ou trois qui gravitent autour, et peut-être que effectivement c'est celle qui est ciblée en ce moment, mais d'expérience, moi je l'ai pas vécu, mais d'expérience médiatique, s'il y a un mouvement de syndicalisation qui commence dans une entreprise, il va aboutir.
Ben écoute, qu'il aboutisse, très très bien. Bon, je pense que c'est le moment de passer à la rubrique en bref. On a conclu cette rubrique espace aéronautique avec trucs qui volent ou trucs qui vont très très vite. C'est le moment justement d'aller très très vite avec les news brèves. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas commencer par Uber, évidemment, puisque on reste dans le secteur social avec Uber, hein, d'ailleurs, puisque l'IPO, donc l'Initial Public Offering d'Uber, qui s'est finalement pas mal passé en elle-même, puisque la boîte a levé 8 milliards de dollars et a acquis une valorisation de 82 milliards, c'est une des plus grosses de ces dernières années. Bon, cela dit, depuis, l'action Uber, comme celle de Lyft d'ailleurs avant elle, a plongé de 17%, ce qui n'est même pas rien. C'est peut-être juste une correction, mais bon, le fait qu'Uber soit déficitaire de 1 milliard et qu'il y ait une grève générale de ses chauffeurs qui voulaient quand même voler le show médiatique autour de l'entrée en bourse, sont peut-être pas totalement étrangers à la plongée de l'action. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais...
Alors là aussi un petit peu plus d'infos autour de ça. L'action, le prix d'introduction de 45 $, c'était le minimum de la fourchette à laquelle Uber avait pensé. Donc le fait qu'elle dévisse malgré tout, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour eux, même si effectivement ça représente une capitalisation conséquente et puis surtout en augmentation par rapport à la façon dont elle était valorisée avant. Cela dit, je ne suis pas sûr que c'est un rapport avec la grève, parce que pour avoir été aux États-Unis à ce moment-là, les chauffeurs n'étaient tout simplement pas au courant de la grève. Donc c'est peut-être juste sur la côte ouest que ça jouait pas tellement le jeu, hein. Historiquement, la côte est quand même beaucoup plus sociale que la côte ouest, même si la Californie est un petit peu à part. Mais voilà, ça n'a pas vraiment fait plus de vagues que ça. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est. Par contre, la couverture médiatique a probablement pas dû aider l'entrée en bourse d'Uber, hein, puisque quand on entre en bourse, on donne un document qui s'appelle le S1 avec toutes ses ambitions, et notamment économiques et financières, et qu'on peut y lire des perles comme le fait que, bah, en ce moment, les gens sur Uber Eats, la plateforme de livraison de repas, ils commandent. Enfin, ceux qui sont déjà clients Uber commandent 1,5 repas par semaine, mais que l'entreprise est confiante pour que, en moyenne, ces mêmes clients passent rapidement à 19 repas par semaine. Hein. On rappelle qu'il n'y a que 21 repas par semaine. Et que comme c'est une moyenne, ça veut dire qu'ils pensent qu'il y a des gens qui vont manger 4 ou 5 fois par jour, et seulement chez Uber Eats. Bon, voilà. Et évidemment, dans les médias, bah, il y a eu un paquet de ces perles qui sont sorties et qui ont montré que, bah, voilà, dans le S1, on se fout un petit peu de la gueule des futurs investisseurs. En tout cas, sur certains sujets.
Écoute, c'est très intéressant effectivement comme mise en contexte. On peut continuer avec les VTC. Les VTC sont-ils bons ou mauvais pour la circulation? Je ne sais pas si tu as ta petite idée, Pierre-Olivier. Il y a eu quand même une étude qui a donc tenté de quantifier ça, et c'est très difficile évidemment, puisqu'il faut imaginer une ville sans Uber et Lyft et le comparer à la situation avec. Et bon, c'est donc il y a eu une étude qui a quand même duré 6 ans et qui a donc étudié San Francisco. Et pour eux, alors entre donc 2010 et 2016, la congestion, enfin la circulation à San Francisco a augmenté de 60%, et Uber et Lyft seraient responsables de plus de la moitié de cette augmentation. Alors bon, ils ont une méthodologie qui est très compliquée, qui est assez compliquée quand même. Et c'est pas la première en fait
Non, c'est ça,
étude
ça fait
qui
plutôt
conclut.
consensus, hein, même si la preuve est difficile à établir. Voilà, la plupart des études ont tendance à montrer un résultat similaire.
Exactement, hein. Il y avait une étude là encore sur Uber et Lyft qui est de l'an dernier, qui concluait à 5,7 milliards de miles qui étaient en plus de miles conduits en plus dans les villes comme Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, etc. Bon, voilà, comme tu dis, ça fait à peu près consensus. Ben oui, ça fait plus de voitures Uber et Lyft, et donc du coup, ben, ça augmente la circulation et donc tous les problèmes qui vont avec. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, hein. Avant, on avait une petite rubrique presque comme ça. Eh ben oui, le Bitcoin, c'est vrai qu'il était donc à 20 000 $ en décembre 2017, puis il s'est cassé la gueule très 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 violemment, et puis il s'est stabilisé vers 3 000 $, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où il a fini par remonter à 4 000, puis ces derniers jours, il est remonté à 6 000 $. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont toujours des bitcoins, bien entendu. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de pourquoi. Oui, parce que finalement, la plupart des news qu'on relaie parfois, même jusqu'ici, sont plutôt négatives. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, le gouvernement chinois qui veut les virer, ou alors les fraudes majeures, ou alors les problèmes techniques majeurs de certaines blockchains. On se demande un petit peu ce qui a poussé le bitcoin à augmenter comme ça. Même s'il y a quand même aussi des petits signaux positifs, comme Fidelity par exemple, qui va commencer à offrir des services d'échange de crypto-monnaies, ou bien plus dernièrement, les frères Winklevoss, donc ils sont plus connus pour avoir poursuivi Zuckerberg en justice sur la création de Facebook, qui ont donc créé une boîte et une application qui s'appelle Spedn. Bon, spend, mais avec un peu déformé, quoi. Et cette application permettra de payer dans des magasins normaux, je veux dire, comme les Whole Foods ou les GameStop, En crypto-monnaie, parce que tout simplement l'application s'occupe de faire la conversion en temps réel. Voilà, donc en gros, elle cache toute la couche de complexité des trucs. Et bon, finalement, est-ce que ça permettrait pas de l'utilisation des crypto-monnaies, puisque c'est pas que le Bitcoin, c'est aussi par exemple l'Ethereum. Voilà, bon, est-ce que ça va devenir un truc mainstream enfin ou pas? On ne sait pas vraiment pour l'instant. Ces variations pourraient être tout aussi bien dues au hasard que ça serait à peu près pareil. Tu n'as pas de Bitcoin, toi?
Non, voilà, c'est un sujet sur lequel je ne pourrais pas commenter. Hein.
Pas de problème, pas de problème. Peut-être que tu pourras commenter sur les sex toys, parce que ça a été un micro, enfin pas un micro, non, c'était quand même un mini scandale.
Un scandale quand même.
Oui, carrément un scandale, on peut le dire, sur le CES, le dernier CES. Puisque voilà, une femme qui avait créé via sa boîte Osée Productions, je crois, un sextoy connecté qui avait reçu un prix et qui finalement ce prix ne lui a pas été remis, parce qu'il a été annulé, parce que justement c'était un sextoy et que finalement ça faisait un petit peu tâche peut-être pour les organisateurs du CES. Bon, finalement le CTA, donc le comité d'organisation, a décidé de lui rendre son prix. Donc les choses rentrent dans l'ordre. Alors, la grande question, c'est évidemment, est-ce qu'il y aura un rayon santé-bien-être dans lequel il pourra y avoir des sextoys ou d'autres trucs de ce type connectés au prochain CES? Voilà, les paris sont ouverts.
Et comme d'habitude, bon, la réponse, ça dépendra de combien il y a d'argent dans le secteur.
Mais potentiellement beaucoup pour ce secteur, me semble-t-il.
Ouais, maintenant, faut pas oublier que le CES reste un salon d'acheteurs. Donc, quand on parle d'acheteurs, on entend la direction de Best Buy, de Walmart, de Amazon, de Target, de Monoprix, du groupe Carrefour, etc. Donc, on se parle de vente en magasin. S'il y a des sextoys qui pourront probablement cartonner au niveau des ventes, faut pas oublier que dans la plupart des cas, leur vente est cantonnée aux grandes chaînes de pharmacie, qui restent des grandes chaînes et qui restent de gros acheteurs, qui n'achètent pas forcément des trucs ultra connectés et ultra modernes, on va le dire comme ça.
Oui, ultra moderne, effectivement. On va passer un petit morceau intelligence artificielle, et parce qu'il y a quelque chose d'assez rigolo qui s'est passé cette semaine. Ever, qui est une application où sur laquelle vous pouvez stocker vos photos et tout ça, un petit peu comme Google Photos. Ben, en fait, c'est une application c'est une boîte qui a deux versants. Un versant où justement il y a cette espèce de service de gestion de photos, et un versant où il y a donc des technologies de reconnaissance faciale qui sont pour le coup revendues à d'autres acteurs. Et qui peuvent être des acteurs de l'État ou voilà, des acteurs privés ou publics. Et ce qu'on a découvert, c'est que évidemment, Ever ne se privait pas d'utiliser les photographies de vos têtes, évidemment, pour entraîner ces algorithmes et ensuite revendre les algorithmes déjà entraînés, donc évidemment pas vos photos directement, aux clients concernés. Et donc ça a fait un petit, ça a fait encore un micro scandale, comme à chaque fois qu'on découvre, ce qui est pourtant pas très étonnant, hein, que les données que vous fournissez peuvent être rentabilisées d'une manière ou d'une autre. Donc moi ça me choque pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est encore une fois une. Toi ça te choque pas plus que ça non plus, je suppose.
Les photos restent privées. C'est pas parce que ça a été entraîné sur notre tête que ça va reconnaître notre tête une fois entre les mains de la police. En tout cas pas mieux que celle d'une autre, qu'une autre tête. Ça a pas vraiment de rapport. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont des pratiques bien plus louches dont il faudrait s'occuper. Moi, je suis vraiment pas gêné par l'utilisation qu'en est faite. Pour ceux qui seraient choqués, il peut être bon de rappeler qu'à chaque fois qu'ils mettent le pied dans un hôpital, leur radiographie, échographie servent à entraîner des intelligences artificielles, et ce depuis plus de 20 ans. Hein.
Bon, voilà, c'est dit. Écoute, c'était... En fait, je pense même que c'est une manière de rentabiliser et de rendre utile une information doublement, quoi. Donc finalement, je ne sais pas trouver le problème. Intelligence artificielle toujours, avec Salvador Dali, qui revit, disons en vidéo en tout cas, parce que le peintre surréaliste, hein, qui disait lui-même qu'il ne croyait pas à la mort de Dali, eh ben, est revenu à la vie dans une vidéo qui utilise du deepfake, parce que le système ne sert plus désormais au coporno, c'est quand même une excellente nouvelle. Le musée Dali, qui donc va inaugurer le 11 mai, qui est donc le 115e anniversaire de Dali, une attraction qui sera une espèce de borne, un grand écran, sur lequel Dali pourra interagir en vidéo avec vous. Alors c'est comme une espèce d'Alexa, hein, vous lui parlez, et il y a des séquences vidéo qui se mettent en route, il peut même faire un selfie avec vous, avec Dali. Et donc pour ça, il y a eu quand même 6000 images qui ont été utilisées des archives de Salvador Dali. Et ben, il y a un algorithme de deepfake qui a appliqué la tête de Dali à quelqu'un qui avait à peu près sa corpulence, et finalement ben, le résultat est très... Bah, le résultat est très, très étonnant et un petit peu étrange. Exactement, surréaliste, exactement. D'ailleurs, voilà, donc la question peut se poser, est-ce que c'est super cool, finalement, de revoir Dali en chair et en os, ou presque? Ou est-ce qu'on peut s'inquiéter de voir des morts comme ça revenir à la vie? Est-ce que c'est pas un petit peu flippant? Voilà, tout est ouvert, comme d'habitude, avec ce genre de sujet. Est-ce que tu as envie de revoir Dali, ou as-tu envie de revoir, toi, en deepfake?
Je sais pas, il y a des gens comme Napoléon ou des bonhommes comme ça que je suis curieux de voir entre guillemets en vrai. Je pense qu'on a toujours voulu faire ça et que quand tu vois le degré de détail et d'impression de mouvement et de légèreté de certaines statues en marbre de la Rome ou de la Grèce antique, bah tu te dis que c'est exactement ce que les mecs voulaient faire eux aussi. Et c'est normal que avec les moyens qu'on a, on fasse ce genre de truc, et c'est cool que ce soit accessible au grand public.
Bah écoute, moi je pense aussi, je pense que revoir Marilyn Monroe et faire un selfie avec, moi je trouve pas ça plus flippant qu'autre chose. On va passer à une série de news un petit peu plus hard, un petit peu plus matérielle, puisqu'il y a des nouveaux capteurs chez Samsung qui sont évidemment qui sont très prometteurs. Forcément, c'est des capteurs plus impressionnants, plus gros. Alors, ils ont cette fois 64 mégapixels. Le précédent record était de 48. Alors, à quoi ça sert tous ces mégapixels? Vous allez me dire, tout simplement à capturer plus de lumière, d'autant plus que les pixels ne sont pas plus gros physiquement. En fait, le capteur va être plus gros physiquement, ce qui veut dire qu'il va prendre encore plus de lumière. Et finalement, à quoi ça va servir? Eh bien, au lieu de voir des photos en 64 mégapixels, vous allez avoir des photos de 16 mégapixels, mais beaucoup plus lumineuses, qui seront aussi... Donc vous avez un capteur beaucoup plus sensible. Donc tout ça, c'est très très bien. Les nouveaux, c'est des capteurs... qui vont probablement se voir dès l'année prochaine dans les trucs de la marque, et peut-être ailleurs. Bon, c'est... Donc ça continue, on va dire, tranquillou. Ce qui continue aussi, c'est Intel qui continue son petit bonhomme de chemin après, voilà, sauf que c'était un chemin un petit peu compliqué ces derniers temps. Alors, Intel a annoncé plusieurs trucs. Bon, on va passer assez rapidement sur Projet Athena, parce que, bon, voilà, c'est un nom qui est assez ronflant pour un truc qui est, comme ça s'est déjà vu, si tu veux, ça m'impressionne pas plus que ça, hein. C'est une initiative qui regroupe plus des constructeurs ainsi qu'Intel pour développer des plateformes qui sont, des plateformes qui sont très contrôlées, qui permettraient d'augmenter, encore une fois, la finesse et l'autonomie des portables. On parle de 9 heures d'autonomie réelle. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'autonomie, on ne sait jamais de quoi on parle, puisque ça dépend du benchmark. Donc, est-ce que ça veut dire autonomie réelle pour Intel? Est-ce que, voilà, est-ce que l'écran est à fond? Est-ce qu'il est au minimum? Est-ce qu'il est à moitié? Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Est-ce qu'il n'y a pas du Wi-Fi? Est-ce qu'il y a de la 4G? On ne sait pas. Bon. Toujours est-il que, voilà, Projet Athena, ça promet des portables encore plus chouettes. Donc, ça, bah, écoute, pourquoi pas? Et puis le plus intéressant probablement, c'est la roadmap des processeurs Intel, puisqu'elle a été aussi révélée. Alors du coup, maintenant on sait que Intel, évidemment, s'attendait à sortir le 10 nanomètre bien avant, mais bon, le 10 nanomètre est sorti uniquement cette année. On sait cette fois qu'à la fin de l'année, il y a des processeurs pour serveurs en 10 nanomètres qui vont sortir, donc ça y est, bientôt la pénurie des processeurs Intel va cesser. On sait désormais que le 10 nanomètres va durer, en fait il va durer au moins 3 ans, il va être décliné en 10 nanomètres plus, puis 10 nanomètres plus plus. En fait le 14 nanomètres aussi a été décliné en 3 versions, en plus et en plus plus, et il y a eu quand même entre 20 et 30% de bénéfices entre le 14 nano et le 14 nano plus plus, donc finalement c'est pas si... Bon, on a déjà parlé, hein, les nodes sont de plus en plus complexes à mettre en place, ils coûtent de plus en plus cher, donc en gros, les constructeurs les optimisent au maximum, et donc ils restent assez longtemps dessus. Le 10 nanomètre ne fera pas exception, à tel point qu'il va se retrouver en même temps sur le marché que le 7 nanomètre, qui va finalement arriver dès 2021, puisque le 7 nanomètre, qui chevauchera le 10 nanomètre plus plus, et qui a donc c'est un processus de fabrication qui est complètement indépendant du 10 nanomètre, qui a été développé de manière complètement parallèle, et qui utilise la technologie des ultraviolets extrêmes. Alors les ultraviolets extrêmes, ça permet, c'est un gros mot, mais en fait globalement ça permet de simplifier le processus de fabrication, donc c'est vraiment super, sauf que évidemment ça utilise des grosses machines qui sont elles-mêmes très compliquées à fabriquer, et que les prestataires ont eu beaucoup de mal à mettre au point, mais apparemment c'est fait. Du coup, le 7 nanomètre arrivera, si tout va bien, en 2021. Il sera lui aussi, évidemment, décliné en 7 nanomètres plus et 7 nanomètres plus plus. Et voilà, on va continuer comme ça. Donc, Intel a fait une conférence à destination des investisseurs où il détaille tout ça. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. On y parle aussi de packaging, on parle de Foveros. Voilà, globalement, le futur d'Intel, c'est évidemment le 10, le 7 nanomètres, mais c'est aussi la modularité avec la possibilité de faire des puces plus customisées avec des interconnexions ultra rapides entre les modules, ce qui permet de faire un petit peu, d'avoir le choix de faire une puce à la carte. On finira par le projet, les GPU Intel, hein, donc le XE, c'est l'architecture de la GPU d'Intel, c'est-à-dire la carte graphique pour le calcul d'Intel qui va arriver en 2021 et qui va donc se retrouver en concurrence frontale avec Nvidia, et probablement avec tous ceux qui font du calcul haute performance et de l'AI, c'est-à-dire aussi AMD, mais aussi Google d'ailleurs, avec ses TPU, etc., et probablement aussi Facebook. Et voilà, donc ça utilisera une technologie Foveros, ce sera en 7 nanomètres, peut-être pas dans le début d'ailleurs, on ne sait pas trop, et je pense que, en tout cas en 2021, ce sera plus compatible, plus comparable à des Tesla de Nvidia, c'est-à-dire des choses pour les data centers, plutôt que des cartes graphiques qui pourront permettre de jouer, mais par contre, après, dans le futur, rien n'indique que Intel ne projette pas de fabriquer aussi des machines de jeu, mais je pense que c'est pas encore leur focus pour le moment. Tu as des remarques sur Intel, sur les annonces Intel?
Pas tant que ça. En tout cas, ils avaient une présence à Google I/O, mais toute limitée. Et on comprend pourquoi, hein. Aujourd'hui, c'est pas vraiment leur focus. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais en conclusion, hein, pour idem pour le gaming, c'est pas encore un sujet.
Voilà, pas pour le moment. Ce qui est un sujet, et on va peut-être conclure là-dessus, ce qui est un sujet, c'est évidemment les écrans flexibles. Bon, malgré la débandade du Galaxy Fold, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, étant donné que les premiers prototypes, en fait, non, c'était censé être des produits, mais ça se comportait comme des prototypes, et voilà, c'est que ça a fait... Ça a fait long feu, à tel point que les précommandes ont été annulées et que bon, c'est pas trop quand le Fold va vraiment sortir. Mais un truc auquel on n'avait pas pensé, ou peut-être que si, mais qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est que on peut aussi faire des écrans flexibles sur des ordinateurs, pourquoi pas. Alors le but, c'est donc de faire un espèce de notebook, donc un ordinateur portable, voilà, qui ait un écran flexible. Alors, globalement, c'est une tablette de 13 pouces 3 qui aurait un écran OLED qui se repliera sur lui-même et qui donc ferait la moitié de la taille. Et donc, vous pourriez utiliser un petit peu comme vous voulez, en mode plat, en mode plié. Alors là, vous auriez un clavier virtuel. Ou vous pouvez l'utiliser en mode déplié sur un support et avec un clavier externe. Et donc, vous bénéficieriez d'un écran qui ferait donc 13 pouces, qui est assez, assez gros pour une tablette. C'est un produit de Lenovo qui va sortir assez rapidement, je ne sais plus exactement quand d'ailleurs, honte à moi. Mais donc voilà, ce nouveau ThinkPad, ce sera un X1, Bon, on a pour l'instant des photos et le concept. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu sans le savoir?
C'est dès 2020 pour te sauver sur la date. Si tu ne la sais pas, c'est parce qu'elle n'a pas été donnée plus que ça. Ça me fait pas rêver parce que c'est comme un gros touch machin, la touchpad ou je sais plus. C'est comment le nom de la putain de barre F sur les MacBooks là?
Ah oui, un truc Smart Touch ou je sais pas.
Ouais,
comment,
voilà.
Je sais plus comment ça.
Ben c'est vraiment pas agréable à utiliser, même quand c'est bien utilisé par les développeurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques au début parce que les apps n'en tiraient pas parti. Maintenant, il y a quand même de plus en plus d'apps qui en tirent parti et qui ont des raccourcis sympas, mais c'est pas agréable à utiliser en fait. Donc avec un vrai écran, peut-être que c'est mieux. N'empêche que pour moi, on reste quand même dans le paradigme de ça me prend un clavier pour produire du contenu. Donc quand il n'y a pas de clavier physique, c'est parce qu'il y a juste des choses à consommer en fait. Et voilà, je ne m'écarte pas de cette idée-là que c'est pas un laptop, c'est une tablette.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est moi, mais je suis comme toi. Hein. C'est-à-dire que et moi aussi, j'ai besoin d'un clavier pour produire des trucs. Et donc, évidemment, quand c'est un device sur lequel tu consommes plus que ce que tu ne produis, ça fait du sens, effectivement, d'avoir un écran pliable. Là, c'est moins le cas parce qu'effectivement, bah, tu peux dessiner dessus sur une grande surface. Bon, je peux comprendre. À noter que ce genre de concept est pas complètement nouveau parce que d'une part on avait déjà parlé des portables double écran qui intégraient un petit écran sous le clavier à la place du touchpad il y a pas plus tard que l'an dernier et je me souviens même il y a plus longtemps que ça d'avoir vu en commercialisation à Darty hein, tout simplement des ordinateurs où il y avait deux écrans, un écran donc en façade et un écran qui pouvait prendre l'aspect d'un clavier mais aussi d'autres choses. Et c'était assez étonnant. Alors, je me souviens plus exactement de quelle marque il s'agissait, mais ce concept-là a déjà été expérimenté et, à ma connaissance, n'a pas reçu énormément d'amour. Quoi. Donc, bon, je suis un petit peu dubitatif aussi. On verra. L'avenir nous dira ce qu'il en est pour les écrans pliables. Si c'est bon, est-ce qu'on peut passer au bonus, Pod ?
Bien sûr.
Est-ce que tu as un bonus ? Est-ce que tu as amené un superbe bonus ?
Bien sûr que non. Non, j'ai toujours pas fait grave. Mais j'y ai réfléchi toute la soirée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui. Et puis j'ai plus des coups de gueule en ce moment que des bonus.
Tu peux faire un coup de gueule.
Non, je peux donner un petit bonus, mais qui s'accompagnera pas de lien. Et puis il faudra me croire sur parole. La Google I.O. était incroyablement bien organisée en termes de logistique. On ne faisait la queue que très peu de temps pour récupérer sa bouffe, pour entrer dans une conférence. Il y avait très peu de pique-assiettes, sachant que les pique-assiettes à Google I.O. c'est un tout autre niveau. Hein. Il ne s'agit pas de juste truster les meilleurs sandwichs. Il y avait des gens qui venaient juste pour les cadeaux, hein, parce que pendant longtemps, il y avait quand même...
Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de cadeaux ?
Eh bien, il n'y avait pas de cadeaux. Et je suis content, finalement, qu'il n'y ait pas de cadeaux. Je trouve ça dommage qu'il faille en venir là pour avoir une audience qui vient là pour travailler. Mais si c'est ce qu'il faut pour avoir une audience qui vient là pour travailler et pas juste pour récupérer des cadeaux, eh bien, je suis content. Donc voilà, c'est ça mon bonus. J'ai passé une excellente Google I.O. Voilà.
Donc ouais, la Google I.O., donc tu recommandes la Google I.O., toi, ton impression est très positive. J'ai l'impression.
Alors, je recommande. Je dis pas que ça vaut la peine, parce que ça coûte cher, surtout quand on n'habite pas dans la région. Le niveau technique des conférences n'est pas très élevé. Hein. Il s'agit en général de nouvelles API, de nouveaux frameworks. Et donc, comme toute chose nouvelle, on les gratte en surface et puis après on les approfondit. Donc la plupart des conférences, mais pas toutes, mais la plupart des conférences de I.O. sont assez en surface. Ce qui est intéressant, c'est aussi de rencontrer les gens qui les ont fait, ces technos, et parfois les gens qui les ont intégrés en primeur, hein, qui travaillent dans d'autres entreprises, etc. Donc je ne sais pas si ça vaut la peine, et si ça vaut son argent, le déplacement, le temps, l'énergie, mais en tout cas, c'était bien mieux que la dernière fois que j'y suis allé, qui commence à dater maintenant, puisque c'était en 2014.
Bon, bah écoute, très bien. Si, c'est vrai que c'est quand même très, très intéressant d'avoir quelqu'un qui y a été. Et puis, bah oui, c'est vrai que c'est décevant qu'il n'y ait pas de cadeaux, mais c'est vrai qu'il y allait que pour les cadeaux. C'est quand même assez fou, quoi. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre un billet d'avion quand même depuis la France pour ça. Moi, est-ce que j'ai un bonus? Oui, j'aurai un bonus. C'est qu'il m'arrive de regarder des animés, et donc je peux recommander un animé plutôt marrant, qui est Mob Psycho 100. Alors, il y a deux saisons, donc je viens de finir la saison 2. C'est un animé de Yuzuru Chachikawa et One. Alors, One, c'est j'avais plus ou moins déjà parlé, puisque c'était à l'époque où j'avais recommandé One Punch Man. One Punch Man, qui était donc une espèce de pastiche de shonen, hein, de shonen d'action, quoi, à la Dragon Ball. Qui pouvait parler donc à un petit peu tout le monde, à ceux qui ont arrêté les animés comme à ceux qui les ont continués. Et donc il a donc One a écrit, donc One est un mangaka, hein, qui a écrit One Punch Man et Mob Psycho 100 qui a été donc adapté en animé. Alors je vous cache pas que le manga de Mob Psycho 100 est pour moi assez difficile à lire parce que One dessine comme un pied. Il faut pas se mentir. La série animée conserve quand même le style de One, qui est quand même assez simple et voilà, pas très tape à l'œil. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus regardable, je dirais, que les mangas qui, en tout cas les premiers tomes du manga, moi, m'ont un petit peu refroidi. Tapez-moi si vous voulez, mais voilà, moi je trouve que One décide très très mal et voilà, je l'assume. En tous les cas, l'animé est très amusant. Alors l'histoire, parce que j'ai toujours pas évoqué l'histoire. C'est l'histoire d'un petit gamin, d'un petit collégien, qui se trouve avoir des pouvoirs psychiques. Alors, les pouvoirs psychiques, évidemment, il est le seul à en avoir, mais il est avec un gars qui est un charlatan complet, mais qu'il a choisi comme maître quand même si c'est un charlatan complet, et qui se fait passer évidemment pour un voyant. Donc, c'est leur relation qu'on suit un petit peu. Évidemment, comme dans One Punch Man, le protagoniste se trouve être super puissant quand il est poussé dans ses derniers retranchements, quand il est poussé à 100%. Et donc, ça donne lieu à plein de trucs assez rigolos. Voilà, c'est très satirique, encore une fois, hein, Mob Psycho 100. Donc, c'est plutôt un animé marrant qui vaut le coup d'œil si vous aimez ce genre-là. Je recommande donc deux saisons. La deuxième saison est encore plus impressionnante que la première, avec voilà, des moments touchants aussi. Donc voilà, si vous aimez ça, c'est sur Crunchyroll, n'hésitez pas. Je pense que ça conclut ce podcast. Donc je pense que je vais te dire merci Pod, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, hein, merci de ta participation, de nous avoir parlé de ton expérience. C'est toujours un plaisir de t'accueillir en tout cas. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, si on en veut plus?
Le groupe Telegram de Tech Café est un bon endroit pour discuter de tout ce qui a été conversion. J'essaye d'éviter de répéter, discuter, mais de tout ce que l'on a présenté à travers cet épisode. Voilà, c'est un bon coin pour venir m'apostropher, compléter les infos, les corriger au besoin, leur donner plus de contexte et puis discuter ensemble du reste.
Exactement, c'est un petit peu le comptoir de ce Tech Café, le groupe Telegram, donc venez vous y arrêter. En tous les cas, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao, ciao!